Allez, au menu de notre club du vendredi, les ados et le sida, le magnétisme de la Terre en rapport avec la Lune et puis le monde fascinant des plantes. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science aujourd'hui, des nouvelles de l'homme de Florès. On apprend en effet que ce minuscule représentant indonésien du genre Homo aurait disparu bien plus tôt qu'on ne le pensait. Un bond en arrière qui relance les spéculations sur les causes de la disparition de ce hobbit. On en parle avec le paléoanthropologue Antoine Balzo. Stéphanie Texier est aux commandes de notre tête au carré, qui a été préparé aujourd'hui par François Mercier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Lucide Action, le magnétisme terrestre et la Lune, et puis de la botanique donc dans le club avec mes invités en studio, Frédéric Dabi de l'IFOP, Martin Potard pour Solancy, et puis l'écrivaine Anne-France d'Hauteville. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis par téléphone, nous serons en ligne avec le chercheur Denis Andreau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors le week-end du Sidaction et ce coup de projecteur sur la prévention auprès des jeunes, Frédéric Dabi et Martin Potard, tout montre visiblement un grave déficit d'information auprès des 15-25 ans, Frédéric Dabi.
Oui, tout à fait. Ce sondage fait chaque année depuis maintenant une dizaine d'années montre une dégradation tous azimuts des principaux indicateurs et pour le dire vite, le sida fait de moins en moins peur et on est de moins en moins préoccupé, informé, donc les comportements se relâchent. C'est un sondage inquiétant.
Oui, Martin Potard, vous les côtoyez de très près, ces jeunes, avec Solancy. Si, le message ne passe pas du tout.
Le message passe quand on va à leur rencontre, mais c'est vrai que au niveau médiatique, on sent que le sujet est moins présent dans les médias.
Donc c'est la faute des médias.
C'est pas ce que j'ai dit.
Denis Andreau, bonjour. La Lune, on va en parler avec vous, jouerait un rôle majeur dans le maintien du champ magnétique terrestre. C'est une donnée qui avait été négligée jusque-là. C'est une vraie découverte.
Oui, je pense, oui, c'est venu à la suite d'une longue réflexion. Tout d'un coup, on s'est dit que ce paramètre qui était négligé jusqu'à présent, en fait, pourrait être majeur, et puis ça explique beaucoup d'autres choses, en fait, donc ça, c'est une idée qui a fait son chemin et qu'on trouve assez originale.
Et qui fait l'objet donc d'une publication dans la revue Nature, on y reviendra avec vous dans quelques minutes. Anne-France d'Hauteville, est-ce qu'on a une idée précise du nombre d'espèces de plantes qui se trouvent sur notre planète ?
Entre 350 000 et 400 000,
Ouais. Mais
je crois que tout ça est très intellectuel, vous savez, parce que je ne vois pas des gens le nez par terre, dans tous les coins de la terre, en train de compter les petites feuilles. Mm-hmm. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Je crois que la certitude d'aujourd'hui, c'est l'erreur de demain, mm-hmm. Et tant mieux, parce que ça permet de continuer à chercher.
Difficile de faire des inventaires en tout cas, mais vous publiez ce miscellanée des plantes, et on va en discuter avec vous dans quelques minutes, avec également les messages des auditeurs sur l'ensemble de ces thèmes, franceinter.fr. Aujourd'hui à la Lune de la science, de nouvelles découvertes autour de l'homme de Florès qui aurait disparu donc plus tardivement que ce que l'on pensait.
L'une des hypothèses la plus évidente est qu'il s'agit d'un Homo erectus, d'un descendant nain d'Homo erectus. Une population ancienne d'Homo erectus déjà en Asie du Sud-Est aurait pu, peut-être aux environs d'il y a 800 000 ans, arriver à Florès. L'isolement et l'écosystème de l'île ont fait que les descendants de ces premiers migrants, avec le temps, ont rapetissé. Le résultat, 800 000 ans plus tard, c'est Homo floresiensis.
Et donc on le croyait éteint il y a environ 12 000 ans, mais une étude parue dans Nature remet en cause ce scénario. L'équipe responsable des fouilles initiales dans la grotte de Luangbua en Indonésie a réétudié donc la stratigraphie du site et considère donc désormais que cet homme de Florès a vécu entre moins 100 000 et moins 60 000 ans. Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes maintenant notre spécialiste attitré de l'homme de Florès. C'est ça. Finalement, on en parle assez souvent. Il y a beaucoup de publications, ça veut dire qu'il intéresse beaucoup les scientifiques.
Il passionne parce qu'il pose beaucoup de questions. Il est tellement différent, tellement particulier que forcément, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça interroge.
Ouais, et peu de spécimens pour pouvoir en parler ?
À la fois peu et beaucoup. C'est vrai qu'on donne cette image de « on a un spécimen et c'est unique » et certains chercheurs critiquent ce fait-là, mais forcément, quand on trouve une nouvelle espèce, ou un nouveau cas d'homme préhistorique, forcément le premier qu'on trouve, c'est le premier. Ouais. Et dans le cas de Florès, on a une douzaine d'individus, ce qui n'est pas si mal pour des populations anciennes.
Ils font quelle taille à peu près, donc ce qu'on appelle les hobbits ?
Ils font un petit mètre.
Ouais. Qui étaient-ils alors exactement ? Quelle est leur carte d'identité ? Un premier profil avant de parler de ce qui a été découvert ?
Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'ils étaient petits, avec un tout petit cerveau. Il y a un squelette assez complet, et puis d'autres individus représentés par des ossements isolés, qui permettent de dire quand même que globalement, ils avaient tous la même stature, un peu plus d'un mètre.
Ouais.
Le cerveau, c'est vraiment tout petit, c'est de la taille de celui d'un chimpanzé ou des australopithèques, alors que c'est un homme qui a vécu très récemment. Donc ça, c'est réellement surprenant.
Ouais.
Et puis surtout, ce qui pose beaucoup de débats, c'est qu'il est petit avec un petit cerveau, qu'il a fait des outils, qu'il a utilisé le feu et qu'il est arrivé sur une île.
Donc il avait quand même des capacités intéressantes, malgré ce petit cerveau.
C'est bien le problème, c'est le lien qui est fait entre les données scientifiques qui sont réelles et les interprétations qui sont faites derrière et qui posent problème à certains, qui partent du principe que toutes ces éventuelles capacités sont impossibles avec un aussi petit cerveau.
Ouais, donc il y a plein d'hypothèses évidemment qui sont émises à son sujet. Alors qu'est-ce qui a amené là en l'occurrence les chercheurs à douter des dates de sa présence sur cette île ?
Ils n'ont pas vraiment douté, ils ont poursuivi les travaux. Les premières publications étaient une synthèse de résultats obtenus sur 3 années dans une grotte qui est très particulière. À fouiller, c'est très compliqué parce qu'il y a un sol très épais, très dur qu'il faut percer. Donc ils avaient fouillé juste quelques zones de la grotte. Là, ils ont multiplié par 3 à peu près la zone fouillée, sachant qu'il y a encore un potentiel gigantesque. Il y a 20 fois plus à fouiller dans cette grotte-là, mais c'est très très compliqué.
Mmh.
Et donc au lieu d'avoir 3 ans de recul sur les informations, ils ont 15 ans et beaucoup plus de données. Et ils ont réussi à voir qu'ils avaient peut-être interprété un peu vite les premiers résultats, que la stratigraphie, c'est-à-dire la superposition des couches dans la grotte, était beaucoup plus compliquée, et que certaines données qu'ils avaient crues très proches des fossiles, qui avaient donné ces âges autour de 20 000 ans, en fait, étaient un mélange de choses plus récentes avec des choses plus anciennes.
Ouais.
D'où ce nouveau calcul d'âge.
Et donc, un bond en arrière étonnant quand même. On passe de 12 000, 20 000 ans à combien ? 60, quasiment 100 000 ans ?
50 000 à peu près pour la disparition, sachant que ce sont que des dates qui montrent les moments où on trouve les choses. Ça n'implique pas qu'il n'a pas continué à vivre après. Et en fait, ce qui était très surprenant au départ, c'était cette date de 12 000 ans qui montrait que Flores aurait vécu tellement tardivement qu'il aurait forcément croisé Homo sapiens. Et là, cette date de 50 000 ans, à l'inverse, en remontant dans le temps, ça arrive à une période où Homo sapiens faisait probablement son arrivée dans ces régions-là, mais on est moins évident qu'il se soit obligatoirement croisé.
Oui. Donc là, il faut changer tous les manuels au sujet de l'homme de Flores sur sa date de disparition. Quand on a une publication comme ça, justement, il faut tout modifier parce que c'est la dernière vérité, en tout cas, émise.
Alors, particulièrement en paléoanthropologie ou en évolution, la dernière vérité, on sait qu'elle peut être modifiée à la moindre découverte, la preuve.
Mmh.
On trouve un nouveau fossile un peu plus récent, ça pourrait tout à fait arriver. L'importance là, c'est que ça contextualise beaucoup mieux. Les dates sont plus robustes, plus solides, donc ça permet d'en savoir plus et plus précisément sur cet homme-là.
Ouais, la technique de datation, c'est toujours quelque chose de compliqué aujourd'hui ?
C'est compliqué, c'est toujours compliqué, et puis c'est dépendant des endroits où on cherche. Là, l'intérêt de cet article-là, c'est que c'est une datation faite avec plein de techniques différentes, complexes, avec toutes des limites, et le résultat est précis justement parce qu'ils sont allés dans la précision de chacune des techniques et tout est concordant. Alors qu'avant, ils n'avaient que des dates avec une seule technique, qui était erroné, mais parce qu'il y avait ces mélanges sédimentaires. Là, ils ont tout un ensemble d'informations qui semblent dire que la couche où il y a les fossiles a à peu près 50 000 ans.
Ouais. Donc ça remet en cause également l'environnement de cet homme de Flores et effectivement le fait qu'il ait pu ou pas côtoyer donc, l'homme moderne.
Ça reste complètement ouvert, cette question-là. Ce qui est certain, c'est que là, ça nous donne une vision un petit peu différente. Ça montre que Flores a vécu il y a 50 000 ans, avec des marabouts géants, avec des stégodons nains, avec des animaux très particuliers, et que, a priori, dans les couches au-dessus, plus récentes, il n'y a plus toute cette faune-là, ni l'homme de Flores. Et ce qui interroge, c'est que en Australie, on connaît à peu près la même histoire à la même époque, avec une faune australienne très particulière, des grands animaux, des animaux très différents, qui ont disparu il y a à peu près 50 000 ans, avec l'arrivée d'Homo sapiens.
Sauf qu'on a
la question qui est posée directement, c'est est-ce que c'est encore Homo sapiens ?
Voilà, sauf qu'on n'a pas découvert de squelette en Australie, en l'occurrence, autour de cette faune.
D'Homo sapiens, vous voulez
dire ? Non, de petits hommes comme Flores.
Non, d'hommes de Flores. Non. Mais là, justement, en Australie, l'idée, c'est de vraiment montrer le premier impact massif de notre espèce sur son environnement. La première grosse destruction de la faune qu'on a pu faire et de la biodiversité, c'est en Australie ou en Amérique, où l'homme arrivant dans des environnements où il n'y avait pas un hyper-prédateur comme l'homme, a complètement chamboulé l'environnement et détruit énormément d'animaux.
Ouais.
Et donc là, la question, c'est de savoir si à Flores, où on a aussi des espèces particulières, Homo sapiens n'aurait pas pu jouer un petit rôle.
Ouais. Ce nanisme, justement, de cet homme de Flores. Alors, il y a une question d'ailleurs de Christophe qui nous demande s'il y a un peu de hobbit en nous aujourd'hui. Alors ça, ce sera après le travail peut-être de la génétique.
Ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on ne sait pas. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre à ça un jour, peut-être. La génétique
progresse.
On l'a
vu avec l'homme de Denisova très récemment.
Fait, voilà, hein, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50 000 ans, il y avait à peu près au moins 5 groupes humains différents qui vivaient.
En même temps.
Hein. En même temps. Ouais, ouais. Et qui sont échangés des gènes. C'est le cas entre Néandertal, Sapiens et Denisova. Ouais. Et vraisemblablement Erectus aussi, qui a un peu participé à notre patrimoine génétique.
Ouais. Mais sur cette île indonésienne, ils étaient les seuls, a priori, ou pas?
Pour le moment, l'homme de Flores, pour le moment, on n'a que des restes d'homme de Flores pour toute cette période de temps, et l'arrivée d'Homo sapiens est bien plus tardive.
Ouais. Cette grotte, c'est un lieu extrêmement protégé aujourd'hui, puisqu'il n'y a qu'à cet endroit pour l'instant qu'on a la présence de l'homme de Flores.
C'est ça, c'est une sorte de forteresse archéologique majeure, très important, où il continue à travailler, heureusement, puisque ça permet d'améliorer les résultats.
Bon, donc on aura l'occasion de se recroiser à nouveau, j'imagine.
Probablement, Balzo, prochaine trouvaille.
Puisqu'on a régulièrement des nouvelles de l'homme de Flores, donc la plus récente dans Nature, justement sur la datation et l'époque où il vivait et où il a disparu. Merci beaucoup d'être passé par la Tête au Carré aujourd'hui. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Jupiter percuté par un astre. Deux astronomes amateurs, un Autrichien et un Irlandais, ont filmé par hasard cette incroyable collision. Le phénomène qui a eu lieu le 17 mars dernier a donc été visible depuis la Terre, soit quelques 600 millions de kilomètres de distance. Les enregistrements vidéo concordants ont été validés par la NASA, qui évoque l'hypothèse d'un astéroïde explosant dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Mise en ligne sur YouTube immédiatement après la collision, la première de ces vidéos a fait le buzz avec plus de 2 millions de vues, et vous pouvez la voir en lien sur la Tête au Carré. Alerte à la disparition de certaines libellules en France. Elles embellissent les jardins, ont souvent des noms à faire pâlir les poètes. La cordulis splendide, l'agrion bleuissant, encore la déesse précieuse, font partie des 11 espèces de libellules désormais menacées de disparition en France métropolitaine. Le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Union Internationale de Conservation de la Nature tirent la sonnette d'alarme. En cause, la réduction des zones humides dont dépendent ces insectes pour se développer, la pollution des eaux. En tout, une vingtaine d'espèces de libellules sur les 89 que l'on peut voir dans nos régions sont concernées de façon plus ou moins aiguë par ce risque de disparition. Et puis une révolution dans l'excrétion. Lors de la conférence mi-mars en Floride, une vidéo a ébranlé le monde des spécialistes de l'évolution. On peut y voir un cténophore, un cousin des méduses, dévorer son repas rendu fluorescent. Ce qui a frappé les chercheurs, c'est qu'après sa digestion, l'animal a excrété des restes de son menu, non pas par la bouche comme ce qui est attendu chez ce groupe animal, mais par des pores latéraux. Et c'est bien cela qui bouleverse nos chercheurs, car jusqu'à présent, les premiers animaux comme les éponges ou les méduses à avoir vu le jour ne possédaient qu'un seul orifice pour les deux fonctions. Désormais, toute la question est de savoir si ces animaux ont développé ce simili-anus de façon indépendante ou s'il s'agit d'un caractère ancestral qui a été perdu secondairement chez les méduses, éponges et autres anémones. Allez, le club dans un instant. Floridada avec Animal Collective à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Les 15-25 ans et le sida, le magnétisme de la Terre et le monde fascinant des plantes. Voilà donc pour les thèmes de notre club cet après-midi. Mes invités, l'écrivaine Anne-France d'Hauteville, Frédéric Dabil, le directeur général adjoint de l'IFOP, Martin Potard, vous êtes chargé de l'action adolescente à Solancy, et puis l'enseignant-chercheur Denis Andreau avec nous par téléphone. Et puis bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé la taxe. C'est donc le week-end du SIDAction. Comme chaque année, l'association publie donc les résultats d'un sondage que vous avez réalisé, Frédéric Dabi, donc pour l'IFOP, votre organisme. C'est la sixième enquête, hein, je crois, qui traite de la perception par les jeunes du VIH et puis de la question, évidemment, de la prévention face à cette maladie. Du point de vue méthodologique, combien de personnes interrogées ?
1000 personnes, 1000 ouais. Jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il n'y a donc pas que des adolescents, il y a aussi des jeunes adultes faits à la même époque chaque année.
Voilà, c'est donc le SIDAction qui vous commande cette étude. Qu'est-ce que ça montre au fond, au fil des ans, ces sondages réalisés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans la façon d'appréhender la maladie ou pas ?
Oui, clairement oui. Là, on est vraiment sur une enquête tournant et c'est très préoccupant puisque tous les indicateurs se dégradent de manière forte. Le niveau d'information qui baisse de 7 points, le fait de savoir où prendre un traitement d'urgence si on a pris un risque qui recule de 18 points en un an. Et puis, il y a une sorte de cocktail maléfique, si je puis dire, entre un reflux du sentiment d'information et le fait qu'on est moins sensible à l'information médiatique sur le sida, qui a changé de nature, qui est moins, qui met plus en avant, mais c'est comme ça, les progrès de la médecine, les projets de vaccins, et tout ça, ce cocktail, mauvaise information chez une part non négligeable de jeunes, hein, en gros 20 à 25%, surtout les 15-17 ans, mais il n'y a pas de catégorie particulière. Cette mauvaise, ce recul de l'information touche tout le monde. Et tout cela, information, relâchement de l'attention sur le sida, contribue à la banaliser et impacte l'image du sida. C'est peut-être la chose la plus importante. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à sous-estimer les menaces portées par le sida avec deux idées. D'abord, un quart d'entre eux disent « le sida ne me fait pas peur » par rapport aux jeunes d'il y a 20 ans, 30 ans où on disait « sida », déjà ça suscitait une vraie crainte. Et puis, chez les jeunes, chez les 15-17 ans, mais pas que, un sentiment d'invincibilité. Oui. On a une part minoritaire des jeunes, bien sûr, enfin minoritaire, entre 20 et 30%, mais 20 à 30% des jeunes, dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, qui nous disent « j'ai aucune chance de me faire contaminer ». Il y a des médicaments pour guérir du sida, ça ne me concerne pas. Et là, on voit très bien le danger de ces différentes perceptions parce qu'elles se traduisent par des comportements. On a maintenant un jeune sur 10 qui dit « je n'ai pas pris de traitement d'urgence après un rapport sexuel non protégé ». Et le fait de se faire dépister en un an a reculé de 10 points. 10 points sur un an, c'est extrêmement rare. On a parfois des chutes de 10 points pour la crédibilité d'un homme politique, mais là, on est sur, on était sur ce sondage sur des données relativement stables. On avait vu une érosion des principaux indicateurs depuis un an ou deux, mais là, c'est un véritable tournant. Un chiffre par hasard, on a 13 points de moins sur est-ce que je connais des lieux où je peux me faire dépister. Et là, c'est minoritaire très fortement chez les 15-17 ans, chez les enfants d'ouvriers, mais je le répète, on n'a pas, comme sur d'autres sujets où on est sur des questions de connaissances, un effet diplôme, un effet CSP+. Tout le monde est touché sur cette banalisation, ce relâchement de l'attention face au sida et puis cette sous-estimation des menaces que la maladie porte.
Martin Potard, cette banalisation, vous la constatez donc avec Solancy auprès des adolescents. Vous êtes chargé de l'action hein, justement auprès de ces jeunes. Le fait que le sida ne fasse plus peur aujourd'hui, c'est presque un problème, non ?
Bah oui, 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 effectivement. Je crois qu'il y a, comme vous l'avez très bien dit, au niveau de l'information, il y a quelque chose qui est un petit peu biaisé, c'est-à-dire que on parle d'énormément d'avancées et heureusement qu'il y a ces avancées au niveau de la recherche, au niveau de la médecine. Mais parfois, c'est entendu par les jeunes comme, c'est bon, c'est réglé, quoi. On a trouvé un vaccin, on a trouvé une solution, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est un virus qui concerne tout le monde et la méconnaissance de ce virus. concerne aussi tout le monde. Donc toutes les classes sociales, tous les jeunes. Et grâce au SIDAction et à cette mise en avant, et je crois que le SIDAction l'a très bien compris, c'est-à-dire que il faut absolument parler aux jeunes. Il faut aller les rencontrer. Il faut parler leur langage pour pouvoir leur faire confiance et leur amener vers une autonomie. C'est-à-dire que je suis pas convaincu que le fait de leur faire peur soit une solution. Je crois plutôt qu'il faut leur donner les clés. C'est un sujet qui est complexe. Même les professionnels, moi j'ai sur le terrain, je rencontre énormément de gens vraiment passionnés, des responsables d'établissement, des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des CPE, des gens qui sont investis, qui ont vraiment envie de faire avancer ces jeunes et de leur donner des clés. Mais c'est un sujet qui est complexe et je crois que pour traiter ces sujets-là, il faut des personnes qui sont qualifiées.
Alors comment vous y prenez justement, Martin Potard, pour tenter de les sensibiliser réellement? Est-ce que vous leur racontez l'histoire de cette maladie ou c'est vraiment pas le type d'argument qui va peser?
C'est un espèce de cocktail, hein. Ça va dépendre. En fait, je construis mes interventions avec chaque groupe. Chaque intervention est différente. J'ai reçu une formation du CRIPS, déjà sur les IST, sur l'animation de groupe, avec laquelle j'ai pu construire ma propre façon d'intervenir, qui m'est vraiment propre. On part d'un brainstorming, on part vraiment de ce qui concerne les ados, de leurs préoccupations. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir engager la conversation, réfléchir ensemble, ramener les questions au groupe pour pouvoir trouver les solutions ensemble. Moi, je suis pas là pour leur apporter des réponses, parce que moi aussi, je peux me tromper. Je suis pas là pour faire un cours magistral sur le virus, parce que je crois que des cours, ils en ont assez et ça passerait à la trappe. Je crois qu'il faut vraiment rentrer en lien avec eux.
Il y a une question de Larry sur Twitter qui demande ce que pensent les jeunes de l'autotest pour le VIH.
Qu'est-ce qu'ils pensent de l'autotest?
Est-ce que c'est quelque chose qu'ils utilisent ou pas?
C'est quelque chose qui est encore très récent, hein. Donc je ne sais pas s'ils en ont encore vraiment pris conscience, donc je ne pourrais pas répondre à cette question malheureusement.
Frédéric Dabi.
Oui, alors c'est vrai que le sondage n'abordait pas cette question de l'autotest, mais en vous écoutant, Martin, on voit que l'information et le fait de donner les clés sont absolument centraux. Et il y a deux mouvements qu'on voit dans ce sondage depuis très très longtemps. D'un côté, il y a un vecteur référent qui est l'école. 87% des jeunes déclarent avoir reçu une information sur le VIH à l'école, mais ils sont presque 1 sur 2 à avoir reçu une information à une seule reprise. On sait bien que c'est pas ça qui va faire bouger les mentalités, donner une sorte de mobilisation. D'un côté, on a ça. De l'autre, je suis frappé par l'éclatement des vecteurs d'information. Il manque un vecteur d'information référent. Est-ce que c'est parce que il y a le week-end du SIDAction, mais est-ce que cela suffit d'en parler de manière très forte pendant trois jours? Internet est bien sûr le premier vecteur d'information, mais on sait très bien ce que ça peut charrier comme représentation fausse, comme rumeur. On a vraiment sur cette question, avec le fait que les choses avancent positivement sur la recherche, on est dans un entre-deux, on est à la croisée des chemins, il manque un vrai vecteur d'information.
On entendait ce matin un reportage d'ailleurs dans la matinale de France Inter, aujourd'hui sur l'information qui est amenée directement sur les sites de rencontres. Je crois qu'il y a des messages maintenant qui invitent justement les personnes qui sont en relation les unes avec les autres à aussi faire des tests. Donc ça fait partie des choses un petit peu efficaces qui peuvent être mises en place, aller directement là où les gens évidemment vivent leur sexualité.
Oui, je crois. Je crois que c'est évident. Il faut vraiment faire. Il faut avoir de l'ingéniosité, de l'invention pour pouvoir saisir ce nouveau public. C'est une nouvelle génération avec de nouveaux codes et il faut aller les chercher là où ils sont. L'année dernière, on a eu un partenariat avec Move Radio. On a réalisé un petit clip grâce à des personnalités du monde du spectacle, des médias, qui s'appelle Seul en Slam, que vous trouverez sur YouTube. Je vous invite à aller le voir.
Anne-France Deauville.
Moi, j'ai passé les 70 ans, donc j'ai vécu cette arrivée du sida. Et je me souviens que dans ma génération, le sida nous enlevait des gens qu'on admirait. On a perdu Freddie Mercury, on a perdu un certain nombre d'icônes. Et donc, on était directement concernés dans ce qui rentrait dans notre cœur et dans notre tête, etc. Et j'ai l'impression que le sida est devenu une maladie comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on ne sait plus qui nous perdons à cause de ça. C'est un peu la courbe du cancer. Autrefois, quand on a commencé à parler du cancer, tout le monde avait honte d'en parler. Et puis, on a perdu des gens importants dans nos esprits. Et peut-être que il y a quelque chose de sociologique derrière ça. On a peur si ça nous enlève ce qui est précieux. Et on ne sait pas ce qui est précieux à ce niveau-là.
Frédéric Dabi.
Oui, je partage complètement. C'est le fait qu'on est dans cet entre-deux où on a dans ce sondage 88% des jeunes qui disent... Et c'est vrai, il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida. On en a 1 sur 5 qui disent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida. Et il n'y a plus, comme vous le dites, le souvenir d'icônes de tout milieu, de toutes sortes, qu'on a perdu à cause de cette maladie. Alors c'est en fait bien sûr une bonne chose, mais est-ce que les jeunes savent qu'il y a toujours 5 à 6 000, je parle sous votre contrôle, faites contamination en France par an, qu'on continue à mourir de cette maladie, 6 500, que le regard social reste extrêmement compliqué, qu'on cache sa séropositivité. Là, il y a vraiment un rôle auprès de cette génération, d'autant plus que un des chiffres que je trouve très inquiétant dans ce sondage, bien sûr, une énorme majorité des jeunes se disent « je suis bien informé sur le sida ». Mais la part de ceux qui se disent « très bien informé », qui auraient pu être des sortes de relais de l'opinion des jeunes générations, a reculé de 10 points en à peine 5 ans.
Martin Potard.
Non, mais c'est ce qui est très important quand même de dire, de rappeler, c'est que ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est pour ça qu'il y a autant d'associations et de personnes qui se mobilisent pour soutenir les personnes qui sont touchées par le VIH. Je salue au passage notre accueillante sociale Edith qui écoute sa radio là avec des mamans de l'association. C'est une maladie qui crée un véritable tsunami dans les vies des personnes qui sont confrontées à ce virus. Donc ce n'est pas une maladie comme les autres. Et effectivement, il y a eu de grandes avancées médicales. Effectivement, il y a des avancées de la recherche et c'est très positif, mais pour qu'on puisse éradiquer ce virus au plus vite, il faut aussi que les jeunes générations et tout le monde se mobilise pour se protéger, éviter la transmission et éviter que le virus se propage. Et je crois que tous ensemble, on va peut-être réussir à le faire disparaître.
Allez, le message justement de ce SIDA Action 2016.
Avec le SIDA, la vie est beaucoup plus compliquée.
C'est pourquoi plus que jamais pendant ces 3 jours, SIDAction a vraiment besoin de vous.
Parce que donner, c'est pas compliqué. Tout le monde est concerné.
Les vieux?
Non, les seniors.
Les jeunes aussi.
Aujourd'hui, trop de jeunes
continuent de s'infecter.
Et ils ne sont pas les seuls.
Il faut absolument réagir.
Pour faire un don, il suffit d'aller sur sidaction.org. C'est pas compliqué.
Ou de composer le 110, c'est pas compliqué non plus. On compte sur vous.
Voilà, sidaction.org et le 110, et pas seulement pendant ces 3 jours, hein, pour ceux qui souhaitent faire leur don et aider évidemment la recherche. Dernière question d'Estelle sur franceinter.fr. Quel conseil donner aux parents pour sensibiliser leurs ados justement au sida? Martin Potard.
Quel conseil? Allez-y quoi. Parlez-en. Nous, ce qu'on fait, parler de la sexualité, c'est sûr que c'est pas évident. Je le dis souvent avec les ados, ce qu'on vient de faire, c'est pas évident. Non, mais par contre, c'est primordial. S'informer, c'est se protéger. Parlez-en. Et puis, renvoyez aussi, il y a des infirmières scolaires dans les établissements qui sont formées pour ça, qui sont à l'écoute des ados. Il faut aussi que les ados puissent se saisir de tous ces outils qui sont à leur portée. Je pense aussi au planning familial.
Voilà, donc week-end du SIDAction et puis cette 6e enquête de l'IFOP justement à la demande du SIDAction avec ses résultats, c'est vrai quand même assez inquiétant. Frédéric Dabi, on peut retrouver bien sûr les grandes lignes sur internet pour en savoir plus.
Sur le site de l'IFOP et celui de SIDAction.
Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec nous dans un instant, le magnétisme terrestre et puis botanique et plantes avec un miscellané qui vient de paraître.
Notre temps à se rendre dingue, sexe, violence ou drogue, le cocktail fait pour qu'on se flingue. On shoot à l'alcool, au fric et même au phonogramme. Laissez passer les photographes, on laisse nos vies sur Instagram. Même si c'est nul, on pense qu'avec nos testicules, on use de mauvaises habitudes, le cash, le flash et l'attitude. Prends de l'altitude, une latte, échange de l'attitude, tu craques. On s'épargne pas, s'éparpille et parle peu. On se fout des conséquences pour mourir avec élégance.
Le diable a déjà gagné, regarde les pages de nos cahiers.
Putain, ce monde est dingue, on se tue pour 2 minutes de fun. Et quand le bonheur se pointe, on est pétrifié comme devant le cœur.
Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.
Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.
Je
regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne.
Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.
Babylone me dit faut faire des sous, rejoins le monde moderne et souffre. Il me reste que l'art, c'est tout. Et si la flamme s'éteint, ce sera mon dernier souffle.
Tous les jours, la vie nous teste afin qu'on abandonne. Parfois, nos démons résonnent en moi. J'entends des voix corps. Et quand j'ai des absences, la vie me renvoie dans les cordes. Je rêve d'être bien et posé comme personne.
À l'heure où la lune accompagne les petits, coincé dans un bocal vide, mes pensées sortent d'une brume apocalyptique. Prenez garde, on prend de l'âge, ne vous méprenez pas. Dans la vie, y'a qu'un seul voyage, on l'a entamé à nos premiers pas.
À quel prix tu pourrais donner ta vie sans finir comme un esclave ou bien enfermé à vie dans des murs, des costumes ou des postures. Je vois des prisons dorées et des impostures.
Alors s'il y a la guerre, on n'ira pas à nous.
L'avenir est si terne,
nous on veut devenir des poids lourds. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne,
faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.
Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne.
Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne.
C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque.
Faut que je tienne, Kondo sur France Inter, dans notre club des têtes au carré. Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Nous partons retrouver à Clermont-Ferrand Denis Andreau qui est avec nous en ligne. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Magma et Volcan à l'université Blaise Pascal donc de Clermont. Et vous travaillez sur la physique des minéraux. Vous avez participé à une étude qui montre que le modèle classique expliquant le champ magnétique terrestre n'est peut-être pas le bon. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler le principe du champ magnétique, à quoi il sert exactement ?
Le champ magnétique, alors il sert pour le développement de la vie. Ce qui joue, c'est qu'il retient une grande partie des radiations qui viennent qu'il repousse une grande partie des radiations qui viennent du Soleil. Donc ça, en sens champ magnétique, on serait arrosé de particules qui vont aller casser les molécules, aller empêcher en fait un certain développement de la vie. Après ça, bon, il est là présent, dû donc aux mouvements qui sont à l'intérieur du noyau terrestre. Donc dans le noyau liquide, on a des mouvements qui sont très turbulents et qui produisent donc un champ magnétique qui traverse le manteau et qui arrive jusqu'à la surface de la Terre.
Donc l'étudier permet de bien comprendre justement cette dynamique interne de la Terre,
hein ? Alors, oui. En fait, nous, l'étude portait en fait sur l'état thermique de la Terre. Donc, l'état thermique de la Terre aujourd'hui. Et pour ça, on avait des informations qui viennent de la sismologie. Et la sismologie nous montrait que près du noyau, le manteau était partiellement fondu, donc très chaud, un noyau assez chaud aujourd'hui et encore, malgré les 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années.
Ouais. Donc ça veut dire quoi? La température ne baisse pas tellement au fond?
Voilà, c'est ça, elle baisse pas tellement. Et puis on s'intéresse aussi donc à la Terre primitive, donc lorsqu'il y a eu la création, lorsqu'on a eu des impacts énormes de météorites, en particulier celle qui a fait la Lune. Et en étudiant donc l'état thermique de la Terre primitive, on s'est aussi rendu compte que quand la Terre était complètement fondue, elle allait refroidir très vite jusqu'à un état où elle aurait cristallisé et qui n'est pas très loin en fait de l'état dans lequel on est aujourd'hui.
Ouais. Quelle est la température du noyau terrestre, Denis Andreau, exactement aujourd'hui ?
À la surface, à l'interface donc entre le manteau et le noyau, on est à peu près à 4000 degrés.
Alors qu'est-ce que nous disait jusqu'à maintenant le modèle classique précisément sur l'existence du champ magnétique terrestre? Qu'est-ce qu'on admettait et qu'est-ce que vous remettez en cause finalement aujourd'hui avec cette étude?
Oui. Alors, pour arriver à agiter ce fer liquide qui se trouve dans le noyau externe, donc je vous rappelle que c'est 3000 km de diamètre, hein, avec un fer qui a la viscosité à peu près de l'eau, donc des mouvements de turbulence énormes. Et pour arriver à agiter tous ces mouvements et générer le champ magnétique, le modèle classique disait ben, il faut refroidir, il faut que, comme dans une casserole, on va faire passer de la chaleur, on va faire des mouvements de convection, et cette agitation thermique, cette agitation de convection va faire qu'on va générer la dynamo. Et donc ça voulait dire, puisqu'aujourd'hui on a encore un noyau assez chaud, ça voulait dire que pour tenir ce flux thermique permanent, donc qui est de 10 terawatts, donc c'est une quantité d'énergie énorme, pour arriver à tenir ce flux de chaleur qui aurait fait la dynamo par refroidissement, il fallait une Terre extrêmement chaude pendant des milliards d'années, en fait. Et c'est ce paradoxe-là qu'on a essayé de... Enfin, qu'on lève, en fait, avec le rôle de la Lune sur le champ magnétique.
Donc, il y avait un problème dès le départ sur ces changements de température?
Ben, alors il y a eu plusieurs évolutions. Il y a eu un paradoxe donc de ce modèle classique qui était que on comprenait pas comment on pouvait avoir une Terre aussi chaude initialement et qui serait toujours chaude maintenant. Quels auraient été les moyens de garder toute cette chaleur à l'intérieur du noyau pendant aussi longtemps?
Alors ce nouveau modèle, donc vous faites intervenir la Lune. Comment on y a pensé là tout d'un coup? Pour expliquer justement ce magnétisme terrestre.
C'est la rencontre entre différentes personnes, en fait. Donc entre des personnes qui travaillent sur la physique des minéraux, donc qui ont affiné les modèles de fusion de la Terre, soit primitifs, soit aujourd'hui. Aussi sur des modèles de refroidissement de la Terre, qui sont des calculs numériques, qui regardent les flux de chaleur, les viscosités du manteau, la convection dans toute la Terre. Et puis aussi une personne qui travaille en géodynamique et qui, pas particulièrement sur la Terre, mais sur d'autres astres dans le système solaire, avait étudié et on avait proposé, et ça, enfin pas nous, mais les personnes qui font cette géodynamo, pensaient que ce rôle du satellite, du forçage astronomique, de cette présence d'un astre autour qui faisait des effets de marée, des effets d'oscillation d'axe, pouvait très bien faire un champ magnétique.
Donc c'est quoi? Donc la publication nous apprend quoi? Que c'est la force de gravitation, c'est ça, de la Lune qui permet ce champ magnétique?
Voilà, alors cette idée avait déjà été proposée il y a très longtemps. Il y a la première publication date de 50 ans, mais l'idée avait été complètement oubliée parce que on n'avait pas de raison de penser que l'effet de la Lune était important. Les gens avaient dit non, ça pourrait éventuellement jouer un rôle, mais probablement c'est le modèle classique avec le refroidissement qui doit prédominer. Et puis à cause de ces études de la thermique de la Terre, eh bien on se rend compte que en fait, la Lune doit jouer un rôle prédominant, parce que sinon on n'arrive pas à expliquer le champ magnétique terrestre.
Et on est allé voir aussi ailleurs dans le système solaire, je crois. Hein. Il y a d'autres lunes, évidemment, nombreuses, autour de Jupiter, par exemple.
Alors oui, il y a deux lunes autour de Jupiter, pour lesquelles on pense que l'effet gravitationnel de Jupiter donc, pourrait provoquer le champ magnétique donc, sur Io et Europe. Et puis on pense aussi que pour la Lune... peut-être que le rôle de la Terre, donc qui était très proche de la Lune, lorsque la Lune tournait encore de façon différentielle par rapport à la Terre, aurait pu provoquer le champ magnétique de la Lune, et aussi pour Mercure, on pense que c'est aussi possible.
Voilà, donc la Lune et son influence sur le champ magnétique terrestre. Est-ce qu'elle joue également dans l'inversion cyclique du champ magnétique dont on parle de temps en temps?
Alors, c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire que, comme tous les effets de marée, il y a un effet et aussi de précession de l'axe de rotation de la Terre qui tourne pas très rond avec une Terre aplatie donc qui agite le métal dans le noyau, et donc tous ces effets de marée de précession ont une nature instable aussi parce qu'il y a l'effet gravitationnel de la Lune, mais il y a aussi l'effet du Soleil. Et donc les effets couplés, comme pour les marées d'eau qu'on voit à la surface, ont des cycles qui sont perturbés, qui sont pas faciles à gérer. Et en particulier donc dans le noyau, il est possible qu'il y ait eu des instabilités, donc des moments où il y avait beaucoup de mouvements, d'agitation, et puis des relâchements de ces instabilités qui ont fait des pulses de chaleur, qui ont peut-être même fondu le manteau, provoqué des énormes effets volcaniques à la surface dans le passé. Hein, donc il est possible qu'il y ait eu toute une relation entre la dynamique du noyau et la surface. Donc ça avait été déjà proposé par des études antérieures. Mais nous, on apporte ce côté instabilité, donc des effets de la Lune. Et donc, à ces moments de relâchement des turbulences et des changements de mouvement, en fait, des changements de mode d'agitation du noyau terrestre, il se peut qu'il y ait des inversions. Maintenant, les inversions peuvent être dues aussi à d'autres effets. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. Donc, peut-être que ces turbulences et ces instabilités sont l'effet majeur, mais il y en a peut-être d'autres. Ça, on ne peut pas le...
Je ne peux pas le dire de façon certaine encore aujourd'hui, mais c'est la science également. Merci beaucoup Denis Andreau pour cet éclairage donc sur le rôle de la Lune et de sa gravitation sur le champ magnétique terrestre. Allez, dans un instant, miscellanée des plantes, ce sera le dernier sujet de notre club avec notre invitée Anne-France Daudeville. Voilà, Bob Marley qui a l'air de faire très plaisir à nos invités. Et à vous aussi, j'espère, avec Iron Lion Zion à l'instant.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Miscellanée des plantes, tout sur les plantes et un peu plus encore, aux éditions Buchet-Chastel, Anne-France Daudeville, vous êtes l'auteur de ce miscellanée, vous n'êtes ni botaniste, ni scientifique, et pourtant, c'est votre troisième livre, hein, c'est ça, sur les plantes. Ce livre sort aujourd'hui, et les plantes, c'est votre grande passion.
Avec les chats, avec la moto, avec le
avec
bon
la
vin.
Moto, c'est vrai.
Oui, j'ai commencé dans ma vie à faire des tours du monde à moto. Et je ne me suis pas rendu compte que j'avais vu toutes ces plantes.
Ah.
Et c'est quand j'ai arrêté de voyager et que j'ai commencé à travailler sur les plantes, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que j'ai vu des choses extraordinaires en Afghanistan, les palmiers à huile au Pérou, enfin, des choses comme ça qui me sont revenues. Et j'avais une encyclopédie déjà d'images dans la tête Après, je suis allée chercher les mots, le savoir des autres.
Ouais.
Et je vais chercher dans la science que je peux en comprendre et je le raconte.
Voilà, et vous écrivez même pour des journaux. Hein. Vous avez tenu une rubrique donc, pour un magazine.
Oui.
Et donc aujourd'hui, ce miscellané. Alors juste un mot sur le genre, parce qu'on en voit apparaître de plus en plus. On se souvient d'un livre qui a très très bien marché.
Le miscellané de Monsieur Schott, du Dr. Schott, oui.
Exactement. Et alors, c'est quoi? C'est un genre qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène.
Hein. Oui, c'est des salades russes. On met des petits morceaux de trucs, de machin, on raconte et on se fait plaisir.
Ouais.
Si vous savez ce que j'ai pu rigoler en écrivant mes histoires de plantes.
Ouais, c'est Jean-Marie Pelt qui signe la préface.
Oui.
Et il raconte justement à quel point on peut picorer, que c'est le principe justement.
C'est délicieux d'avoir écrit ça, vous ne pouvez pas.
De ce miscellané, exactement. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence chez les plantes, Anne-France Dauteville?
Ça c'est... Alors un jour j'ai raconté ça à un monsieur très célèbre dans le monde des plantes et il a poussé un hurlement en disant « Ah, c'est de l'anthropomorphisme !»
Ouais.
Je lui ai dit « Oui, moi j'ai le droit, vous pas.
» Donc vous le dites.
Oui, je pense que... Il y a une forme d'intelligence, mais qui ne passe pas par le cerveau.
Oui, ça serait.
Voilà.
Ouais.
Je pense que la plante entière est un cerveau. Nous, nous l'expliquons à travers des capteurs de lumière, à travers des petits machins chimiques qui bougent. Au résultat, ça met en place un comportement, ça met en place des stratégies, des surprises extraordinaires. Et finalement, je trouve que certaines plantes sont beaucoup plus intelligentes que certaines de mes voisines.
Bon, d'accord, très bien. C'est pour elles. Si elles nous écoutent, on les salue. Pourquoi vous dites ça? Parce que les plantes développent quoi, justement, comme stratégie?
Par exemple, j'ai découvert un jour dans un vieux bouquin, et même non, dans Popular Science Monthly, qui est le premier journal scientifique aux États-Unis, de juin 1905, un iris de 35 cm qui arrive à mettre en panique un bison de 700 kg.
Et comment il fait?
Alors, il fait sa graine vers la fin du printemps. Comme tous les iris, il met ses graines dans une petite capsule dont les bords sont comme du papier. Il fait chaud, donc le bison dort. Le vent se lève, il fait moins chaud, le bison se met à marcher, il broute, il marche. Le vent s'enquille dans la capsule, ça l'agite, les graines tapent contre les parois, ça fait frrrr. Et ça, c'est le bruit du serpent à sonnette qui va attaquer. Le bison, il met ses pattes à son cou et il se taille.
Incroyable. Vous pensez que c'est la plante qui mime le serpent à sonnette?
C'est le bison qui le croit.
Ouais.
La plante a dû, pendant les milliers d'années, proposer une odeur. Le bison s'en fichait, donc il l'a mangée. Donc cette partie du gène de la plante a sauté ou ne s'est plus exprimée. Et de proposition ratée en proposition ratée, eh bien c'est celle de la disposition des graines qui l'a emportée. Et du coup, le bison... terminé.
Voilà. Anne-France Dauteville, on parlait de la Lune tout à l'heure.
Oui.
Ça vous a inspiré justement une anecdote au
oui,
sujet des arbres.
Oui, je vous disais qu'il y a une étude qui a été menée sur des aulnes et on s'est rendu compte qu'au moment de la pleine Lune, il y a comme une marée de sève à l'intérieur de l'arbre, c'est-à-dire que tous les liquides remontent et le diamètre de l'arbre grandit. Alors, c'est pas énorme, c'est quelques millimètres, mais n'empêche qu'il y a des marées dans les arbres comme il y a des marées sur la mer, c'est-à-dire que la Lune agit sur tout ce qui existe sur notre Terre.
Il y a aussi ce lien entre l'origine des hommes et des plantes. Certains peuples, en tout cas, s'affichent clairement comme étant
beau.
Les descendants des plantes. Hein.
Oui, oui. Il y a cette histoire. Quand j'étais journaliste, je suis allée voir les Navajos à Monument Valley. Et il y avait un type qui était extraordinaire, qui a maintenant une agence de voyage là-bas. Il s'appelle Tom Phillips. Si vous allez là-bas, aux États-Unis, à Monument Valley, c'est un personnage qui a une connaissance de la pensée magnifique. Donc... dans le troisième monde, les insectes, le peuple des insectes est très mal tenu. Alors le chef des sauterelles les a bannis.
Ouais.
Donc les insectes sont passés dans le quatrième monde. Et ils ont vécu comme ils pouvaient. Puis ils ont vu arriver les saints, les êtres saints. Alors les êtres saints, bon, ils n'avaient pas beaucoup de formes, ils n'avaient pas beaucoup de couleurs, ils avaient une silhouette. Et puis on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, ça faisait nom, 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 nom. Ils sont habitués à eux. Et puis un jour, les êtres saints sont venus, ils étaient quatre, ils ont posé par terre une peau de daim, et puis par-dessus, ils ont mis un épi de maïs blanc et un épi de maïs jaune tourné vers l'est. Une plume d'aigle blanc, une plume d'aigle jaune sur les épis de maïs, et puis ils ont mis une deuxième peau de daim. Et ils ont tourné autour de ça quatre fois, en nom, 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 nom. Le vent d'est est arrivé, c'est le vent blanc, il est passé entre les deux peaux de daim qui ont ondulé. Et puis, une fois qu'ils ont fini de tourner autour de ce sandwich de peau de daim et de maïs, ils ont enlevé la peau du dessus et à la place des épis de maïs, il y avait le premier homme et la première femme. Et c'est pour ça que les Navajos, quand ils ne sont pas chrétiens et que le soleil se lève, ils prennent un peu de pollen de maïs dans une petite poche en peau de cerf qu'ils ont au cou et ils l'offrent au soleil pour le remercier d'exister.
Donc c'est la version Adam et Ève des Navajos en fait, hein, c'est ça.
Complètement.
C'est l'ordre de l'homme de Flores.
Ou de l'homme de Flores.
Non, non, ils étaient grands.
Ils étaient grands. Attention, précision scientifique. On raconte pas n'importe quoi ici, Frédéric.
Mais j'adore cette histoire et j'adore le fait que ces gens continuent à remercier le soleil d'exister. Ouais. Nous, on a un peu oublié ça.
Vous abordez plein de thèmes. Hier, l'émission était consacrée aux sons, les sons qui nous procurent des émotions, les sons, les bruits qu'on entend et la façon dont ils agissent sur le cerveau. Parce qu'on n'en a pas parlé avec les invités, mais il y avait des questions qui étaient arrivées à ce sujet-là, sur le son, justement, et la musique sur les plantes. Vous avez des infos
là-dessus. Il y a des recherches absolument fabuleuses qui sont menées par Joël Sternheimer. Joël Sternheimer travaille, il a repris les études d'un japonais avec un nom imprononçable et que j'ai oublié d'ailleurs. Voilà, ces études, elles se passent dans le monde de la physique quantique. Il travaille sur la protéine. Donc quand une protéine se construit, vous avez un brin d'ARN qui se tortille. Et au moment où la protéine se construit, vous avez entre 18 et 24 acides aminés qui s'accrochent à ce brin d'ARN. Et au moment où ils s'accrochent, ces acides aminés émettent une vibration. Et la longueur d'onde de cette vibration correspond à un son. Donc il y a entre 18 et 24 sons de base qui signent la naissance d'une protéine. Or, une protéine, c'est un petit morceau d'un tissu vivant.
Mais ça, on les enregistre, enfin, on peut les entendre, ces sons?
Oui, absolument. Il les enregistre. Mais certaines ondes s'additionnent, donc vous pouvez avoir plus de notes de musique que ça. Ce qui fait entre 20 secondes ou bien 1 minute 30 ou quelquefois 2 minutes pour la naissance d'une protéine. Ce qui donne, vous mettez 50 pieds de tomates ici, 50 pieds de tomates là. Sur celle de droite, vous mettez 3 litres d'eau, des engrais, des pesticides, tout ce qu'il faut. Et de l'autre, vous mettez simplement 1 litre d'eau par jour, 1 minute 30 le matin, 1 minute 30 le soir, de la musique entre guillemets, de la protéine de la tomate en train de s'agglomérer. Eh bien, au bout de 2-3 mois, celles de droite sont souvent attaquées par des champignons et comme elles sont gonflées à l'EPO, qu'elles vont chercher leur énergie à l'extérieur, ça se passe mal. Alors que les tomates avec la musique, eh bien, elles sont dans une forme extraordinaire. Alors bon,
quel drôle de truc.
Ça a été souvent refait. Ça a été refait, ça à la cave en Ariège, ça a été fait en Suisse, etc. Eh bien, actuellement, Sternheimer, avec sa boîte qui s'appelle Genodix, est en train de faire une percée dans le monde de la vigne. Les vignes sont attaquées par un champignon épouvantable qui s'appelle l'esca. Et pour combattre l'esca, il faudrait mettre de l'arsenite de soude, qui est interdit parce que ça dévaste tout.
Donc il y a des alternatives qui seraient celles que vous venez de nous décrire.
Une minute le matin, une minute le soir, de la musique, la protéine, l'esca, mais à l'envers. Ça inhibe la progression. Et il y a des quantifications qui ont été faites en Bourgogne, le long de la vallée de la Loire et un peu dans le Bordelais. Ça fonctionne, on peut faire régresser l'esca de plus de 40%. C'est monté à 70% quand les années n'étaient pas trop humides. Bon. Et il est en train de fonctionner fabuleusement chez ceux qui font pousser les salades, vous voyez tout ça. Des tissus fragiles attaqués par des champignons.
Bien. La musique de l'ARN, en fait, c'est ça, ce que vous disiez. C'est un drôle de truc, quand même.
La musique des acides aminés, plutôt, qui s'installent sur l'ARN. Ouais. Ah non, c'est passionnant.
On peut apprendre tout ça dans ce miscellané des plantes, Anne-France Daudeville. On aura un article également sur le tournesol à la rescousse de Tchernobyl, une plante qu'on a utilisée justement et qui peut absorber comme ça les
césium,
radiations.
Le césium, oui, absolument, par les racines.
Ouais. Et c'est un ouvrage qui est publié chez Buchet-Chastel, plein d'anecdotes. C'est le principe de ces miscellanées. Tous sur les plantes et un peu plus encore. Merci beaucoup d'être venu dans le club des Têtes au Carré. Merci beaucoup à vous, Frédéric Dabi et Martin Potard. On n'oublie pas le C d'Action, c'est le 110 et cidaction.org.